France Bleu Vaucluse, côté expert jusqu'à 10h, Marie Vernet.
Soyez les bienvenus. Côté expert, on s'intéresse au code de la route, on s'intéresse tout simplement à notre sécurité aussi. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à notre expert ce matin, expert de chez Route et Sécurité, Antoine Riz. Bonjour Antoine.
Bonjour Marie.
04 90 14 04 04. Alors, pendant les fêtes de fin d'année, vous avez fait peut-être de la route. C'est inhabituel. D'habitude, vous faites un petit trajet de 20 km et puis là, vous avez fait 300 bornes et là, vous dites, oulala, mais alors, sur l'autoroute, c'est comme ça maintenant. Voilà, mais il me semblait que c'était pas comme ça il y a quelques années. Bref, vous avez besoin d'une remise à niveau. Vous voulez poser vos questions 04 90 14 04 04.
Jusqu'à 10h, France Bleu Vaucluse, côté expert.
Un anniversaire d'abord, Antoine.
Oui, oui, effectivement. En fait, à un an près, on fête les 100 ans du code de la route. À quelques mois près, on fête aussi les 100 ans du permis de conduire, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc effectivement, un siècle plus tard, c'est quand même quelque chose qui... Le code de la route est resté jeune. Parce qu'en fait, il s'est renouvelé régulièrement avec des règles qui ont évolué, soit de nouvelles règles qui sont apparues. Donc, je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs aient vu passer les petites mises à jour qui régulièrement sont venues se rajouter. Et c'est pour ça que en début d'année, ça peut être une très bonne idée de faire une petite mise au point.
Mise au point parce que pour certains, on a passé le code de la route il y a longtemps. On l'a même passé dans la voiture hein, avec le moniteur. Oui. Et il me semble qu'il y avait quoi, 2-3 questions à ce moment-là, pas plus.
Oui, à cette époque-là, avant qu'on passe le code dans une salle dédiée aux examens, effectivement, il y avait 2-3 questions de code avant de partir dans l'épreuve de conduite qui elle-même pouvait durer que 10 ou 15 minutes. Donc c'est une époque où vraiment le permis de conduire était très accessible.
Et puis autre chose, Antoine, selon si on l'a passé en campagne, en ville, il y a des panneaux qu'on n'a jamais vus. Il y a même, moi j'ai le souvenir de ma maman Nicole, je vais la citer, ça la fera plaisir. La première fois qu'elle passe son permis de conduire, elle le loupe parce qu'elle se retrouve face à face avec un feu rouge et qu'elle n'en avait jamais vu dans sa campagne, quoi.
Ah oui, mais effectivement, vous avez des petites villes comme ça où on sait qu'il y a un seul carrefour à feu. Et à une époque même, il y avait très peu de giratoires. Aujourd'hui, on en a beaucoup, mais les gens ne savaient pas trop aborder les giratoires parce que dans leur petit village, il n'y avait pas.
Absolument. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Stéphane. Et puis ensuite, on va regarder donc les... Il y a 6 grands points, je crois, hein, vraiment sur des changements majeurs en cette année 2023. Et puis vous venez, surtout, venez me raconter vos anecdotes de code de la route. J'aime ça, 04 90 14 04 04. Soyez prudents, surtout ça, Antoine Riz qui nous accompagne.
9h30, 10h, côté expert sur France Bleu Vaucluse.
Un titre tout bien trouvé puisque nous prenons la route justement avec notre expert, route et sécurité, Antoine Riz dans les experts ce matin. Venez, hein, 04 90 14 04 04. Peut-être pour nous dire, oui, alors je ne comprends pas en ce moment, il y a au sol comme ça, avec une belle craie blanche écrit 30. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rouler à 30 parce que c'est quand même pas un panneau très conventionnel? Alors peut-être que non, après tout.
Alors effectivement, ça c'est assez récent puisque ça a été arrêté en 2020. Mais c'est le fruit d'une expérimentation de plusieurs années sur la ville de l'agglomération de Grenoble. En fait, ils ont testé un dispositif qui fonctionne très bien, c'est-à-dire que vous avez une limitation à 30 km/h à l'entrée d'agglomération. Et ce qui veut dire que par défaut, c'est le 30 km/h qui doit s'appliquer dans tous les axes de l'agglomération. Sauf que sur certains des axes, notamment les grands boulevards, les grandes avenues, vous avez un 50 km/h marqué au sol dans un rond blanc. Et à ce moment-là, vous pouvez rouler à 50 km/h. Donc le marquage au sol de limitation de vitesse permet de déroger à la règle générale du 30 km/h. Et ça va dans un axe qui est fixé par l'Europe déjà depuis quelques années, à savoir qu'il faudrait que les agglomérations soient apaisées en termes de conduite et de sécurité, et donc que le 30 km/h soit la mesure la plus fréquente sur à peu près les trois quarts du réseau, qu'ensuite on puisse avoir quelques axes structurants qui soient à 50 km/h, et puis quelques rocades à 70 km/h.
Mais si c'est écrit au sol, c'est conseillé ou c'est obligatoire?
C'est obligatoire. Voilà, hein. Du moment que c'est un rond, ce qui n'a pas changé dans le code de la route, c'est le sens de la forme. La forme des panneaux et des marquages donne le sens de ce que ça indique. Un triangle, c'est toujours un danger. Un rond, c'est toujours une obligation ou une interdiction. Et un carré, c'est une indication. Donc si c'était une indication, ce serait dans un carré. Mais comme c'est dans un rond, effectivement, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une prescription.
Juste une chose, parce qu'il y a beaucoup de marquages au sol aussi désormais dans nos routes, oui, dans nos villes, à propos des pistes cyclables. On en voit de plus en plus.
Alors, ce qu'on voit surtout, c'est des bandes cyclables. En fait, la piste cyclable est séparée de la chaussée des voitures par un séparateur physique, alors que la bande cyclable, elle est sur la même chaussée que celle des voitures. C'est juste une bande qui est marquée avec le pictogramme des vélos.
Sauf que des fois, on a le droit de rouler dessus. Vous avez remarqué ?
Alors oui, effectivement, vous avez même une expérimentation qui est en train de se généraliser un petit peu partout avec ce qu'on appelle le chaussidou ou la CVCB, c'est-à-dire la chaussée à voie centrale banalisée, où vous avez deux bandes cyclables de part et d'autre d'une voie unique de circulation. Et donc les voitures roulent au centre de cette petite route. Et pour se croiser, peuvent chevaucher les bandes cyclables qui se trouvent à gauche et à droite. Donc c'est assez particulier. Alors c'est limité à des routes qui sont peu fréquentées quand même. Mais ça permet un meilleur partage de l'espace et ça permet une prudence accrue des automobilistes sur des petites routes étroites où on peut croiser d'autres usagers comme des piétons et des cyclistes.
Des fois, on hésite à le faire. Hein. C'est complètement autorisé sur ces routes-là.
Oui, pas seulement. On peut aussi franchir toutes les bandes cyclables à partir du moment où on tourne à gauche ou à droite. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'usager sur la bande cyclable, autrement dit le cycliste ou la trottinette électrique, parce qu'ils ont le droit d'être dessus, sont prioritaires quand ils sont sur leur voie. Donc on ne peut pas leur couper la route comme ça, impunément, surtout si on tourne à droite, par exemple.
La trottinette, on roule sur la piste cyclable?
Alors pour tout ce qui est circulation, les trottinettes électriques, ce qu'on appelle les EDPM, les engins de déplacement personnels motorisés, doivent tous circuler comme les vélos.
D'accord.
Avec le même règle que les vélos. Autrement dit, s'il y a une bande cyclable, c'est sur bande cyclable. S'il y a une piste cyclable, c'est sur la piste cyclable. C'est interdit sur le trottoir. Et s'il n'y a pas de bande cyclable, à ce moment-là, ça circule sur la chaussée au même type que les véhicules motorisés.
Puis on fait attention aux cyclistes et aux trottinettes. C'est vrai. Hein. Mmh. Ça nous oblige, ces dernières années, ça nous a vraiment obligés à revoir notre mode de conduite et à se souvenir qu'on avait des rétros.
Oui, par exemple. Et puis qu'on partageait la route.
Mais
une des grosses difficultés qu'on a, mais ça, c'est un petit peu dû à notre culture très gauloise, très, très appropriée. Propriétif de la route, très individualiste. Ce qui est compliqué souvent pour nous Français, c'est de partager la route avec d'autres usagers qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas le même mode de déplacement, les mêmes attentes de leur déplacement.
Et on dit souvent, c'est vous qui m'aviez dit ça un jour, on dit souvent prendre la route.
Ouais.
Ça, non, vous ne prenez pas la route, vous la partagez avec les autres. C'est intéressant, si vous avez envie de réagir justement que votre code de la route, vous avez une petite anecdote, 04 90 14 04 04, avec Antoine Ruiz de Route et Sécurité, on va continuer de s'intéresser à ce code de la route qui a bien évolué. Par exemple, si je vous dis corridor de sécurité, allez, vous avez 3 minutes et on se retrouve après Calogero.
France Bleu Vaucluse, côté expert, jusqu'à 10h, Marie Vernet.
Et Antoine Ruiz, surtout, pour Route et Sécurité, notre spécialiste du code de la route qui a fêté ses 100 ans l'année dernière en 2021, qui se renouvelle régulièrement. Et justement, si je vous dis corridor de sécurité, eh bien vous êtes comme moi, il y a un blanc. De quoi que vous nous causez, Antoine?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va faire bientôt 5 ans que cette règle a été mise en place et que vous avez beaucoup de panneautage sur les autoroutes pour justement l'expliciter. Alors, le corridor de sécurité, c'est assez simple, c'est une barrière virtuelle qu'on doit respecter quand on est à l'approche de soit d'un véhicule en panne, soit d'un intervenant. Vous savez, le patrouilleur ou un dépanneur ou quelque chose comme ça, lorsqu'on est sur une route, une voie rapide ou une autoroute. Donc ce qui veut dire par exemple que si vous avez sur la bande d'arrêt d'urgence, vous avez un patrouilleur en train d'intervenir sur un véhicule en panne, vous devez libérer la voie de droite. Et tous les véhicules doivent se reporter au minimum sur la voie centrale et ensuite éventuellement sur la voie de gauche.
Alors ça, c'est écrit nulle part, mais on le fait par bon sens. Si c'est écrit quelque part.
Alors c'est écrit quelque part. Déjà, c'est un décret qui a modifié le code de la route, donc c'est une nouvelle règle. Et puis vous avez des panneaux qui l'indiquent sur l'autoroute. On les voit sur l'autoroute A7, sur l'autoroute A9, etc. Il faut y prêter attention. Ils sont à droite. Ils expliquent le corridor en trois panneaux pour justement indiquer qu'il faut libérer au mieux libérer la voie la plus à droite.
D'accord, donc on se met sur celle du milieu et le mieux c'est de se mettre sur celle
de
gauche.
Une voie suffit. Hein. Là, ce que dit le corridor de sécurité, c'est qu'il faut une voie de large ou l'équivalent d'une voie de large. Et si on ne peut pas, parce que la circulation est chargée à ce moment-là, c'est ralentir au maximum, serrer au maximum en s'éloignant du véhicule ou en panne ou en intervention.
Alors il faut dire qu'il y a eu de nombreux accidents.
Oui. Il y en a encore beaucoup.
Et c'est ça. Et puis la loi finalement de la vitesse qui fait que quand on est piéton sur le bord de l'autoroute, on se fait happer par la vitesse.
Alors il y a de ça effectivement. Vous prenez un véhicule lourd lancé à 90 km/h, ça représente une masse énorme et son souffle peut effectivement happer un piéton. Mais même une voiture à 130 km/h crée une perturbation, une turbulence qui est assez remarquable. Et puis il y a toujours le risque d'un petit coup de volant inopportun qui va décaler le véhicule d'1 mètre ou 1 mètre 50. Et ça suffit pour aller mordre sur la bande d'arrêt d'urgence. Vous savez, les collisions contre les patrouilleurs d'autoroute, c'est pas toujours un choc net, je veux dire, sur toute la largeur du véhicule. C'est souvent le coin arrière-gauche du patrouilleur qui est percuté par le coin avant-droit du véhicule qui l'a percuté.
Soyez prudents et surtout on prend soin des hommes et des femmes qui travaillent sur nos autoroutes. Tenez, tout à l'heure on parlait des cyclistes, parce que je fais le lien, parce qu'on disait danger sur l'autoroute, danger avec nos cyclistes. On cède le passage au feu rouge. Alors ça, le code de la route évolué il n'y a pas longtemps. Si, il y a longtemps quand
effectivement,
même.
Effectivement, ça fait 10 ans, mais, mais 10 ans ça ne fait pas longtemps, parce qu'on sait que pour qu'une nouvelle règle soit assimilée, il faut quand même beaucoup de temps. Vous prenez l'exemple de la ceinture de sécurité qui a été obligatoire en 73. Il a fallu bien attendre les années 90 pour que la majorité des conducteurs s'attachent. Le céder le passage pour les cyclistes au feu rouge, ça date d'il y a une dizaine d'années, et en fait, cette mesure n'est possible que si le feu rouge est équipé d'un petit panneau de céder le passage, avec un vélo, le pictogramme du vélo en jaune sur ce céder le passage, et une flèche ou des flèches qui indiquent la direction dans laquelle le cycliste a le droit de passer au feu rouge, tout en cédant le passage aux autres usagers. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a la priorité sur personne. Et bon, si vous êtes cycliste, vous savez que vous avez la priorité sur personne et que vous êtes en danger en permanence. Donc, à condition de passer avec prudence et en respectant la priorité des autres, à ce moment-là, vous pouvez franchir un feu rouge pour tourner dans la direction qui est indiquée par la flèche sur le panneau.
Vous croyez que c'est respecté, ça? Franchement,
l'idée, c'est pas tellement ça. En fait, le problème, c'est qu'on avait une culture de transgression du feu rouge par les cyclistes en France qui était quand même très marquée.
Oui.
Et l'idée, c'était peut-être de mettre en place une mesure qui permettrait de canaliser ce franchissement du feu rouge et que petit à petit, une application vertueuse du franchissement du feu rouge se mette en place. On ne croit pas, et on a raison de ne pas y croire, aux changements radicaux dans le comportement. Le changement, il doit se faire progressivement, petit à petit. Donc si petit à petit les cyclistes mettent à respecter les feux rouges parce qu'ils savent qu'ils ont cette tolérance-là de franchissement lorsqu'ils vont dans une direction donnée, à ce moment-là, on peut caresser l'espoir que d'ici 10 ou 15 ans, les cyclistes soient beaucoup plus respectueux des feux rouges.
Voilà, on arrête de les griller. Très bien. Et puis, on va en parler dans les prochaines minutes. Il y a parfois des restrictions à 20 km/h. Alors ça, on en voit peu souvent, mais on les voit quand même. Bien souvent, ça nous fait bondir quand on est au volant de la voiture. Il y a une explication. Il y a une raison, on en parle après Angèle.
Jusqu'à 10h, France Bleu Vaucluse, côté expert.
9h53, vous avez encore le temps de nous rejoindre avec Antoine Horis pour Route et Sécurité. On parle du code de la route qui a fêté ses 100 ans l'année dernière, qui a bien évolué. Peut-être que vous avez envie de râler. Hein. Moi, je prends. Venez râler. Peut-être que vous avez envie de dire que c'est mieux qu'avant. Et je sais pas. Ou alors, non, c'était mieux avant. Qu'avant. 04 90 14 04 04. Moi, j'ai le souvenir d'avoir passé mon code de la route sur des petits boîtiers. On appuyait sur le A, B, C, D. Et il y avait une dame qui, je pense, le passait pour la énième fois. Elle n'en pouvait plus. Elle a jeté le boîtier par terre, quoi. Je sais ça, aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que je crois que le code de la route, il se passe en ligne, Antoine, non?
Alors, vous le passez dans une salle d'examen et vous le passez sur un ordinateur ou une tablette.
Ah, c'est ça, hein.
Ouais.
D'ailleurs, on s'entraîne désormais beaucoup. Il y a eu une belle révolution aussi du côté des auto-écoles. On s'entraîne beaucoup sur Internet. On peut le passer même que comme ça, Claudie.
Alors, pour se préparer à l'examen, effectivement, on peut le faire sur Internet. En revanche, c'est un gros inconvénient. C'est qu'après, une fois qu'on arrive sur la phase de conduite, on a perdu du temps. C'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit pas simplement d'être prêt à l'examen, il faut aussi être prêt et, comment dire, à appliquer les règles de conduite. Et quand vous avez tout préparé sur Internet, ben vous n'êtes pas prêt. Et moi, je vois les retours de terrain des écoles de conduite que je connais bien, qui me disent, mais on peut perdre plusieurs heures de conduite à expliquer des règles que normalement les jeunes doivent avoir acquises avec ce qu'on appelle, nous, l'ETG, l'épreuve théorique générale. L'examen du code. Et alors que ceux qui ont fait leur formation dans les écoles de conduite, mais une vraie formation avec des enseignants qui sont là en salle pour leur expliquer, ceux-là mettent moins de temps pour la partie pratique de la conduite, puisqu'ils ont mieux assimilé les règles qu'ils devront appliquer ensuite.
Mais le côté virtuel, c'est vrai que parfois ça empêche d'imprimer, quoi. On est tous clair. Comme ça, hein, oui, effectivement. Alors, pour les jeunes qui viennent d'avoir leur permis, voir un 20 km/h sur la route, mais ils l'ont vu il n'y a pas longtemps, ça paraît normal. Pour nous, déjà, j'ai permis depuis une belle lurette, je trouve ça bizarre et je suis un peu suspicieuse. Et puis alors, si on a passé le permis il y a 30 ou 40 ans, pouf, on est carrément réfractaire.
Bah, carrément, surtout qu'en France, on a vu apparaître le 30 km/h seulement en 1990.
Oh, c'est récent.
Avant ça, la vitesse la plus basse, c'était 45 km/h. Et bon, en même temps, on rappellera qu'on a frôlé les 20 000 morts dans les années 70, donc on vient quand même de très loin. Aujourd'hui, vous avez les zones de rencontre, et Avignon est un bel exemple, mais pas seulement, parce que Carpentras aussi, le centre-ville de Carpentras est une zone de rencontre. Mais tout l'intramuros d'Avignon, c'est une zone de rencontre. Dans une zone de rencontre, en fait, tous les véhicules sont limités à 20 km/h maximum. La priorité est donnée aux piétons qui ont le droit de circuler librement sur la chaussée, qu'il y ait des trottoirs ou pas, c'est pareil. Et ils circulent où ils veulent. En revanche, ils ont interdiction de stationner sur la chaussée. C'est-à-dire qu'un
on
ne s'arrête
pas pour papoter.
Exactement. Voilà, si on veut faire salon, ben on ne se plante pas au milieu de la route. Voilà. Ça, c'est une règle de bienséance en même temps. Les cyclistes ont l'autorisation de remonter les sens uniques. Donc c'est un double sens cycliste partout dans une zone de rencontre. Voilà, il n'y a pas besoin d'un panneautage spécifique. En revanche, l'autorité municipale a le droit de l'interdire. Voilà, ponctuellement, si on s'aperçoit que ce double sens cycliste est dangereux, le maire peut éventuellement l'interdire.
Mais comment on sait qu'on est dans cette zone de rencontre ? C'est signifié comment ?
Alors, vous avez, quand vous allez franchir les différentes portes d'entrée de la ville d'Avignon, vous allez voir un panneau rectangulaire bleu, à fond bleu, avec un 20 km/h dedans, bah à droite, un piéton, une silhouette de piéton en blanc en gros plan, puis un vélo un peu plus petit et une voiture en arrière-plan. Et c'est ce panneau carré bleu qui vous indique que vous entrez en zone de rencontre.
Alors, on est attentif et on le regarde.
Exactement.
Et puis, on va terminer, si vous voulez bien, parce qu'il nous reste encore une petite minute sur ce label qualité des écoles de conduite qui est apparu en 2018. Kesako.
Alors effectivement, en 2018, ça correspond aussi à la réforme de la formation professionnelle continue. En France, on a décidé d'avoir des formations professionnelles de qualité et les écoles de conduite ont suivi le mouvement. Autrement dit, aujourd'hui, une école de conduite peut être labellisée, ce qui veut dire qu'en fait, elle s'est engagée et qu'elle est auditée là-dessus sur un enseignement de qualité, une formation de qualité. Et en contrepartie de ce label, eh bien, cette école de conduite peut délivrer certaines formations qui ne nécessitent pas l'intervention d'un inspecteur des permis de conduire. Par exemple, la passerelle, pour passer du permis moto A2 au permis A, c'est-à-dire le permis gros cube, sans restriction.
Et ça, on peut le voir en trois clics sur leur site internet respectif.
Toutes les autres écoles labellisées l'affichent.
Label qualité des écoles de conduite. À regarder, donc, on a appris plein de choses.
Merci
Antoine Ruiz d'avoir été avec nous. Justement, si vous avez envie d'en apprendre plus sur Antoine, Route et Sécurité, c'est le site internet, n'hésitez pas. Puis on se dit à bientôt pour d'autres conseils.
À bientôt Marie.
À bien besoin. Bonne année aussi.
Bonne année également.
Bonne année
à tous les auditeurs.
Route de France, effectivement.
France Bleu Vaucluse. Côté expert, c'est aussi sur francebleu.fr et sur l'appli ici.